Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
C'est parti pour le numéro 604 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au bar à vin restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable. On parlera de la Provence et des vignerons, du concept Fournovino, des grands vins du sud de la France, de l'Europe de l'Est, côté Bacchus, du château Prost, notamment en appellation Sauternes, et comme chaque semaine, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux, en compagnie de Frédéric Hermine, Olivier Marié, David Cobol et Philippe Forbach. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par vous, Frédéric, si on partait un petit peu du côté de Buzet. C'est sympa comme région, Buzet. Vous connaissez Buzet ou pas?
Eh bien, il n'y a qu'à faire. Ah, bah alors, je connais très bien.
Et si Georges Clooney vous invite à Buzet, par exemple, est-ce que vous y allez?
Alors, j'y vais déjà sans Georges Clooney.
Vous irez deux fois plus vite.
Donc, j'y vais de temps en temps. J'y vais d'ailleurs cet été, en tout cas, j'y passe. Mais avec Georges Clooney, encore plus volontiers. Oui, je veux bien.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Vous pouvez m'arranger ça, Non, parce qu'après, les promesses, ça va bien 5 minutes. Mais
Georges, qui écoute l'émission chaque semaine en direct de New York. Alors, Buzet, qu'est-ce qui se passe?
Alors, le 13 juillet, à partir de 14h, l'Office de tourisme du Val d'Albret et donc les vignerons de Buzet, la coopérative qui représente quand même 95% de l'appellation, je vous le rappelle, organise une grande fête pour célébrer leur vin et leur territoire. Donc au programme, balade dans le vignoble, visite de la cave des vignerons de Buzet, atelier de dégustation à l'aveugle, atelier d'initiation à la dégustation. Ils ont en plus mis en place plein de petits trucs avec des chouettes et tout, c'est génial.
Et des chouettes, vous dites?
Oui, pour héberger les chouettes Athéna. C'est très développement durable. Il n'y a rien de mieux pour la qualité.
Bah, c'est chouette. Hein.
Et donc, le tout en musique, ils vous expliqueront ça sur place avec la production du groupe Le Territoire d'en Face, qui est aussi un groupe local. Attention, les balades se font sur réservation. Pour cela, un numéro 05 53 84 17 16 et tout le programme de cette journée sur Albret, A-L-B-E-R-T, comme Jeanne, .tourisme.com.
Allez, on quitte les chouettes pour Chenonceau.
Oui, le samedi 16 juillet, dégustation sous les étoiles au château de Chenonceau en Touraine. Il s'agit d'une dégustation lors d'une promenade nocturne dans les jardins illuminés du château, en présence des vignerons de la récente AOC Touraine-Chenonceau.
Et de Georges Clooney.
Ah, aussi?
Aussi, il vient.
Oh, deux rendez-vous sur un été, vous me gâtez.
Il va être très présent cette année
vous
en
me
France.
Gâtez. Oui. Donc 25 domaines faisant partie intégrante du Val-de-Loire seront représentés, le tarif 6 euros et pour plus d'informations sur chenonceau.com. Chenonceau, E-A-U.
Bon, enfin, rien de grave.
Non. Pourquoi?
Qu'est-ce qui se passe là?
Il se passe du 18 au 29 juillet. Il ne faut pas manquer la 17e édition des rencontres musicales internationales des Graves.
Ah, enfin le second degré qui arrive au cerveau.
Le festival, vous savez, je suis blonde, hein, ouais, pas non plus.
Ouais.
Le festival proposera 9 concerts qui, selon la tradition, sillonneront la route des vins de Bordeaux en Graves et en Sauternes. Et les grands châteaux ouvriront leurs salles et leurs chais au concert dégustation du meilleur cru avec une programmation exceptionnelle, nostalgique et insolite. Tchaïkovski, Haydn ou encore Schubert seront au rendez-vous. Pour plus d'informations, musique en Graves, tout attaché, graves.com.
Philippe Forbach, vous voulez dire un truc parce que je vous vois
non, j'ai un sourire là. Je voulais savoir que le moment arrivait Georges Clooney, mais j'ai compris, il arrive pour le café.
Ah non,
c'est
trois
ça,
rendez-vous, ce sera trop dans l'été.
Oui, et puis à votre âge. Alors, Frédéric, donc merci pour ces commentaires sur l'agenda. L'UFM accueille maintenant un premier invité, Jean-Pierre Durand, qui est le directeur de la communication d'Advini. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors racontez-nous, ce groupe-là, tout débute en 1870 avec la création de l'entreprise Jean-Jean.
Oui, tout à fait. Et depuis, une entreprise qui a pas mal évolué, surtout sur les 15 dernières années, avec son président Antoine Deletchia.
Qu'on salue d'ailleurs.
Oui, et qui aurait bien aimé être présent d'ailleurs.
Bon, on va les traiter la prochaine fois. Quoi. Voilà. Le groupe au total, donc en 2015, le chiffre d'affaires, donc c'était 241 millions d'euros.
Mais c'est avant tout l'addition de plusieurs petites entreprises qui, localement, sont très implantées dans leurs vignobles. C'est aujourd'hui 2072 hectares de vignobles, 29 propriétés et quelques signatures connues et reconnues, je pense, comme La Roche, par exemple.
Allons-y, donc La Roche, là, le Tachabli. Voilà.
Augier à Châteauneuf-du-Pape,
Augier,
le Clos de l'Oratoire des Papes, Château Gassier en Sainte-Victoire, la famille Jean-Jean avec ses 400 hectares de vignobles sur le Languedoc, la famille Ucase et les Clédopoli sur le Roussillon.
Et puis Régal,
un très bel endroit. Quand
on arrive dans le sud-ouest, effectivement, à Cahors, avec la famille Régal et également aujourd'hui Château Chambert de Philippe Lejeune qui nous a rejoint. Et puis on va sur Bordeaux avec Antoine Moix Propriété, avec le combat que l'on mène pour notre château Capéguillé qui est en en phase d'évolution pour un jour rentrer dans le classement des Saint-Émilion Grand Cru classés. Et puis une série de propriétés sur le Médoc, aujourd'hui un peu plus de 300 hectares de vignobles en Médoc, avec des crus bourgeois sur lesquels on compte beaucoup pour faire face à un certain Bordeaux bashing qu'on peut rencontrer sur certains marchés.
Ouais, c'est ça, quoi. Alors ce groupe, donc, il y a plusieurs entités, c'est une belle ETI, et pourtant c'est la passion du vin qui anime matin, midi et soir tous les collaborateurs. C'est assez étonnant, quoi.
Oui, oui, alors justement, vous parlez de groupe, chez nous, on exclut cette notion de groupe, parce que c'est plus une collectivité qui vit avec une philosophie. Cette philosophie, c'est la passion des grands terroirs de France, avec des responsables qui sont tous engagés localement. On parlait tout à l'heure de la Maison Laroche, son président Thierry Bellicot est président de l'Union Grand Cru Chablis, et donc il donne de son énergie. À titre personnel, je suis responsable de la section promotion de l'interprofession. Donc nous sommes là pour défendre les valeurs de nos terroirs, et c'est ce qui fait certainement aujourd'hui la force d'Advigny. Avec une particularité, on a beaucoup engagé de fonds sur l'amont, beaucoup de force sur l'aval. Vous savez qu'on est dans 110 pays aujourd'hui, avec 12 bureaux de représentation, 17 nationalités dans nos équipes de vente. Et la particularité...
Vous n'avez pas des Anglais quand même ?
Nous avons bien évidemment des Anglais.
Ah. Une des particularités... Ils sont aussi sympas que David ou pas ?
Ouais. Mais oui, bon. Bien sûr. Surtout en cette période de...
Oui, oui, c'est sûr. Et donc, le capital du groupe Advigny, enfin, du groupe qui... Alors, le groupe, c'est quand même un groupe, hein, donc Advigny.
Oui, alors aujourd'hui, la famille Jean-Jean détient toujours une majorité du capital, avec un peu plus de 46%. Le reste est composé d'un capital flottant, mais avec quelques grandes familles qui nous suivent. Et particularité, là aussi, dans le monde du vin, 8% du capital est en autocontrôle et également détenu par les managers d'Advigny, ce qui permet d'avoir cet engagement à la fois familial et managérial sur un projet tout à fait unique.
C'est un très beau modèle. Vous avez également une école de vin ?
Tout à fait. Donc, au-delà de nos engagements en amont et en aval, on considère aujourd'hui que nos 700 collaborateurs ont tous la capacité d'évoluer. Et à ce titre-là, on a développé une école des vins qui est située dans un des domaines de la famille Jean-Jean et qui a tout le matériel disponible pour pouvoir accueillir tous nos collaborateurs, pour être formés non seulement au métier du vin, mais également sur des développements personnels et managériaux.
Alors Jean-Pierre, donc l'actualité récente, bon, il y en a beaucoup, mais on en a pris une quand même, c'est très important, la première édition de ce concours, Vignerons et Terroirs d'Avenir. Alors rappelez-nous un peu le concept.
Alors le concept est né il y a 2 ans d'une rencontre entre Antoine Lecha et un président de CAF Coopérative avec lequel on fêtait notre 15e anniversaire de partenariat. Et à cette occasion, Antoine Lecha dit au président, écoutez, si vous avez des jeunes qui veulent s'installer, nous sommes prêts à financer leur installation dans un deal gagnant-gagnant sur une filière verticalisée. Et le président nous dit, mais c'est sympa, sauf que moi, depuis 5 ans, j'ai jamais vu un jeune vouloir s'installer. Donc Antoine est revenu discuter avec nous et de là est née l'idée de dire, cette filière aujourd'hui qui est attractive pour le monde international et finalement peu attractive pour des jeunes qui souhaiteraient s'installer, peu de visibilité sur la commercialisation, importance des capitaux engagés pour démarrer dans le métier. D'où l'idée de dire on va se regrouper avec Supagro Montpellier, avec la partie Supagro qui s'occupe du développement économique, et on va créer un concours qui va permettre à des jeunes vignerons en phase d'installation ou déjà installés de percevoir non seulement de l'argent, parce que bien évidemment il faut beaucoup d'argent pour faire des grands vins, mais également des conseils de la part non seulement des élèves de Supagro, mais également des cadres et des conseillers d'Advigny.
Et donc là, une 50aine de dossiers de candidature, 7 retenues, 7 finalistes, on va dire.
Tout à fait.
Et les gens étaient motivés, il y a quand même des bons dossiers ou pas ? Et
c'est ce qui nous a surpris. Alors bien évidemment, on a communiqué à travers nos maisons de vin dans les différents bassins de production, à travers les ODG, à travers les journaux spécialisés, et on a été très surpris de recevoir très rapidement 50 dossiers. Et dans ces 50 dossiers, 7 dossiers étaient particulièrement motivés et motivants.
Et dont un, et il est là, il est avec nous en avant-première mondiale, le lauréat de cette édition 2016. Il a une petite voilà, voilà, ça c'est l'effet Georges Clounet. Frédéric Berne qui vous a gagné. Bravo Frédéric.
Merci, merci.
Bah alors racontez-nous, donc, vous avez raconté d'abord, comment vous avez connu un peu ce concours, ce trophée ?
Alors moi, ça s'est fait un peu par hasard. En fait, j'étais au CAVB à Beaune l'an passé. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un trophée jeune talent. Et je me suis dit, pour avoir de la visibilité, il faut qu'on fasse parler de soi. Et je me suis dit, il faut que je m'inscrive à ce concours. Je vais sur Google, je tape concours vigneron talent, etc. Et je suis tombé sur le concours Advigny.
Et vous avez dit, pourquoi pas, quoi ?
Je me suis dit, pourquoi pas, exactement.
Bon, alors dire que vous avez failli être informaticien, c'est quand même mieux comme job vigneron, non ?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le métier de l'agriculture étant très compliqué... fin des années 90. C'était, on va dire que mes parents m'ont pas forcément lancé.
Vous avez motivé quoi. Alors vous êtes dans le Beaujolais. Vous êtes où exactement? Il est où ce château des Vergers? C'est une belle rencontre. Hein. Vous étiez avec votre épouse que vous aimez toujours, je suppose. Vous cherchez une salle pour vous marier et paf, vous arrivez dans le château.
Exactement. En fait, c'est elle qui m'a emmené là-bas. C'est voilà, c'est elle qui m'a fait rencontrer donc les propriétaires. Et en fait, ça nous a paru super pour se marier, mais j'avais d'autres idées en tête quand j'ai vu la propriété,
ah oui.
En
sachant pas bien de penser à deux choses différentes.
Ouais, c'est pour ça que je les ai revus 15 jours après.
Ah, je vois Olivier Barrier qui sourit.
Est-ce que si j'ai pas emmené ma femme.
Combien d'hectares et quelles appellations vous êtes en quoi?
Donc 6 hectares de vignes, donc appellation Morgon, Chirouble et Beaujolais Village, donc essentiellement des Beaujolais Village sur Lantigné. Où en fait, en Beaujolais, on est en train de faire un gros travail sur les appellations communales, où à l'heure actuelle, on est l'appellation Beaujolais Village qui représente 4000 hectares, mais on a du mal à communiquer sur nos terroirs. Donc là, on est en train de lancer, on va dire, un gros travail, justement, pour retrouver, pour avoir un outil de communication sur nos terroirs, sur notre savoir-faire, suivant nos communes. C'est pour ça qu'à l'avenir, on espère voir arriver l'appellation Beaujolais Village, évoluer, avec des noms de villages, comme on peut trouver en Bourgogne.
Ouais, c'est bon, ça. Le domaine, c'est votre nom, c'est le château, comment...
Donc je suis Frédéric Berne, vigneron au château des Vergers.
D'accord,
c'est important parce que je suis le vigneron du château. C'est pas ma propriété, moi je suis métayer.
C'est ça.
C'est le gros avantage du métayage.
Faut peut-être expliquer ce que c'est que le métayage.
Donc le métayage, en fait, on donne une partie de la récolte au propriétaire en échange de pouvoir utiliser la structure viticole et les vignes.
Et les deux quoi.
Et pour censer, c'est vraiment une très bonne forme.
Vous avez un site internet pour prendre enseignement?
Oui, oui.
C'est lequel?
Donc c'est www.frédéricberne.com.
D'accord. Alors là, grâce à Jean-Pierre Durand, Antoine Leccia, groupe Advini, grâce à ce concours, vous avez un chèque de 50 000 euros. Alors, à part partir 3 semaines aux Bahamas, vous allez faire quoi avec cet argent?
Alors, je vais déjà acheter un petit peu de vignes, parce que j'ai des vignes qui m'intéressent bien, qui m'intéressent fortement, et voilà, ça me permet de pouvoir obtenir ces vignes. On est dans une période où on est en pleine restructuration, et c'est pas forcément toutes les générations qui croient à cette restructuration. Là, je suis en conversion en bio, donc je me dirige vraiment vers une agriculture responsable. Et du coup, on va dire que les propriétaires sont pas forcément chauds pour renouveler des vignes qui ont 50 ou 60 ans, mais qui sont partis sur un modèle où c'est très difficile d'avoir une culture écologique. Donc là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir acheter des vignes, les restructurer, pouvoir faire vraiment le travail que j'ai envie de faire, ce travail de perfection qu'on peut avoir en Beaujolais.
David Cobol, pour une rapide question.
Est-ce que dans le deal Advini, il y a une aide à la commercialisation de ces vins-là?
Surtout pas. Très très bonne question. En fait, notre difficulté, c'était de ne pas transformer la filière en gringo.
Exactement.
Donc on voulait absolument que les vignerons soient des vignerons indépendants, capables d'assurer la totalité de leur mission, de la vigne jusqu'au consommateur.
Merci beaucoup Jean-Pierre Durand, merci également Frédéric Berne. Vous nous rappelez votre site internet là pour prendre enseignement sur vos vins?
C'est www.frédéricberne.com.
Bon, on marque une première pause, ensuite retour chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour parler de la Provence et de Bordeaux.
BFM Business, week-end. Invino BFM, Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin restaurant Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée. Et nous retrouvons Frédéric Armine qui s'intéresse aux vignerons de Provence. Vous les aimez, vous, les vignerons de Provence, hein?
Oui, surtout quand c'est il y a un projet solidaire, comme d'ailleurs on parlait de Frédéric Berne, d'aider des projets, alors là, les jeunes vignerons, mais en l'occurrence, dont je vais vous parler, ça part d'une histoire pas très drôle, et puis finalement, c'est un projet qui est assez chouette au final. Alors, le 1er juillet 2012, en 7 minutes, Raymond Villeneuve perd toute sa récolte. Raymond Villeneuve, c'est le vigneron du domaine de Roquefort en Provence. Et il n'a plus rien.
7 minutes.
Orage de grêle, fini, plus rien. 100% de sa récolte. Et c'était très
localisé. Ça représentait combien d'hectares ou de quelle taille?
Je ne l'ai plus en tête pour tout vous dire, mais il y a plus.
Il a 25 hectares.
25 hectares rasés.
J'en ai parlé.
Rayé de la carte. Et donc, le pauvre, il lance un SOS parce qu'il a plus rien, quoi. Et évidemment, les vignerons ont du mal à s'assurer en termes de grêle parce que ça coûte plus qu'une récolte, donc ça coûte trop cher et très peu sont assurés. Donc, il lance un SOS pour que on l'aide à donner du raisin pour payer les factures, en gros. Donc, fait appel à ses camarades vignerons qui apportent un peu de raisin par-ci par-là. Finalement, il y a donc non seulement du raisin, mais il y a l'architecte collecte du Mucen qui l'aide aussi parce qu'il est copain. Il y a l'agence Quart de Lune qui les aide aussi pour faire une cuvée un peu spéciale en faisant les étiquettes. Le Crédit Mutuel qui apporte aussi des conseils, etc. Il y a tout un regroupement qui se fait. Et finalement, donc tout est vinifié au Château de Beaupré qui est l'un des 27 apporteurs de raisins qui participent à l'opération, hein, Château de Beaupré en Côteaux d'Aix. C'était les seuls finalement qui avaient aussi une unité de vinification qui pouvait accueillir des raisins autres que les leurs.
Oui.
Et puis, on fait une cuvée qui finalement est très bonne parce que par rapport à, évidemment, il n'a pas choisi les raisins qu'on lui a donnés. Donc, ça fait un très joli vin. Tout le monde se retrouve autour d'un sanglier.
La cuvée
un peu
s'appelle
sympa.
Grêle.
Et...
Ah, Grêle, il y a deux mots en plus.
Voilà. Et ça donne une très jolie cuvée. Et forte de ça, fort de cette expérience, finalement, Peter Fischer de Revelette, notamment, se dit, après tout, pourquoi pas prolonger l'expérience et puis monter une association où chacun apporte 100 kilos de raisins, donc la trentaine de vignerons qui font partie de cette expérience, et pour faire un vin collectif qui va s'appeler Cuvée Solidaire. Alors, plutôt un rouge, parce qu'on les attend pas sur le rosé en Provence, il y en a suffisamment. Le blanc, ça aurait été compliqué de récupérer du blanc chez tout le monde. Donc finalement, tout le monde a un peu de raisin. L'idée, c'est de récupérer, alors à une date fixe, ce que chacun peut apporter comme raisin mûr. Donc chacun apporte le cépage qu'il veut. Alors en gros, ça donne, puisque là on en est au deuxième millésime qui va être mis en bouteille, un quart à peu près de Mourvèdre, un tiers de Grenache Syrah, il y a à peu près 20% de Carignan Cabernet, et puis on retrouve aussi un peu d'Alicante, de Caladoc et de Cournoise. Donc dans les vignerons, parmi les premiers qui ont participé, il y a Tempier, il y a Prado, Malherbe, la Bastide Blanche, Revelette évidemment, les Béates, Pibarnon, Vignelor. Donc voilà, ça donne 1518 magnum, parce que par rapport à tout ce qu'ont apporté les gens, ça faisait 1518 magnum. Ouais. Le magnum, c'est un format qui est plutôt plaisant à mettre en avant. Franchement, ça coûte pas très cher, c'est 35 euros un magnum, et le vin vraiment est très bon. Chaque vigneron participant aide aussi à la commercialisation. Il y a quelques restaurants des environs qui ont aidé notamment l'Oasis à la Napoule qui le sert au verre pour faire déguster.
Famille Rimbaud.
Ça fait partie, exactement, de tout ça. Et puis, on fait aussi, alors on le vend et puis on cagnotte. Tout ça sert à une cagnotte, maintenant qu'il y a de l'ordre de 60 000 euros.
On cagnotte, c'est une jolie expression.
Voilà, on cagnotte. Et pour finalement...
Dans l'assurance, Olivier, ça cagnotte aussi un peu, non ?
Beaucoup en France.
Là, c'est pour la bonne cause.
Est-ce que George cagnotte ? George, il cagnotte
Je ne le connais pas encore. C'est bien, je vous dirai après l'été. Et on regroupe un peu ce fonds de solidarité au cas où ça arriverait à nouveau. Alors, il ne s'agit pas d'aider, parce qu'hélas, c'est un peu la règle en ce moment de perdre 10 ou 20% de récolte, mais c'est vraiment pour aider des gens qui ont tout perdu. Alors, au départ, c'était l'idée d'aider des gens qui ont perdu tout au niveau météorologique, mais ça peut être aussi un décès subi, un gros coup du sort, il n'y a pas de règle en la matière. Et d'ailleurs, cette année, sans doute que, alors, soit en termes de raisins, soit en termos d'argent, ce sera sans doute le Clos Saint-Joseph en Côte-de-Provence, là, en Alpes-Maritimes, qui a perdu quand même 60% de sa récolte lors du dernier orage de grêle, qui pourrait être aidé. Donc, le deuxième millésime va être embouteillé dans quelques jours et il sera disponible dans tous les châteaux qui participent à cette opération. Alors le site et l'association, ça s'appelle Rouge Provence avec un site.fr, rougeprovencetoutattaché.fr, et franchement je trouve que c'est une belle opération.
Olivier Mario, vous pensez quoi ? Parce que ce côté solidarité, c'est quand même génial. Quoi.
C'est un peu de l'assurance aussi.
Ouais, c'est un peu d'assurance, mais quelque part, ça mutualise. Hein.
C'est la mutualisation et c'est un peu du crowdfunding assurantiel
spontané.
Dans le vin. Quoi.
Philippe Arbac, c'est courant ça dans le vin ? Il y a un copain, un confrère, un collègue qui est dans la difficulté. Alors, allez, on l'aide.
C'est pas courant, ça arrive quand même. Et il y a quand même une tradition de la vigne qui fait référence à Saint-Vincent, patron des vignerons. Et la Saint-Vincent, c'était un peu ça. C'était un peu le saint protecteur, mais c'était aussi une confrérie qui mutualisait finalement quelque part à la fois les moyens, mais aussi la mise en œuvre d'aide collective quand c'était possible.
David, vous avez parlé déjà de ce sujet il y a quelques mois.
Oui.
Cet élan de solidarité, c'est momentané, c'est quelque chose qui peut...
Moi, je pense qu'il faudrait le systématiser dans la mesure... Il faut que ça soit un acte volontaire, mais je trouve qu'ils ont donné l'exemple en Provence et que les autres régions viticoles de France devraient faire de même. Après, si toute une région est dévastée par gel et grêle, ça devient très compliqué. Il faut que ça soit plus large, mais l'idée est magnifique.
Mmh. Et ça n'a pas été simple, parce que même par rapport à l'INAO, il a fallu avoir l'accord des fraudes et tout ça, parce que tout le monde se se disaient, mais ils sont malades, ça se fait pas, et ça a été compliqué de mettre en œuvre tout ça.
L'idéal, c'est l'assureur qui parle, ça serait de faire ça entre différentes régions, comme le disait David,
oui, c'est ça, au niveau national,
pour avoir un risque bien mutualisé.
Exactement.
En général, les orages de grêle sont très localisés. Donc les problèmes météo, en général, ne touchent pas non plus toute une région, toute une appellation.
Et là, on serait en vin de France, et pourquoi pas.
Et pourquoi pas, exceptionnellement. C'est Philippe Orbach.
Alors, il y a une approche qui a été entreprise par l'INAO il y a un certain nombre d'années, avec une expérimentation qui existe à la fois en Champagne et même à Chablis aujourd'hui, et d'autres appellations s'y mettent. C'est une sorte de réserve qui permet aux vignerons d'aller légèrement au-delà de leur rendement autorisé, dans une marge limitée et du coup autorisée aussi, et de mettre de côté donc un certain volume.
Ça paraît bien, ça se fait.
Une sorte de garantie décennale, c'est ce qu'on appelle la réserve. Mmh. La réserve décennale.
C'est-à-dire que c'est chaque vigneron qui aurait un peu plus de son propre vin.
Exactement. Bloqué, il ne peut pas le commercialiser. Et
ça
si jamais
il y a. En Champagne.
Exactement, ça existe en Champagne sur 10 ans. Chablis l'a fait aussi, ils en sont très contents cette année. Donc ils ont cette réserve qui leur permet effectivement de mutualiser et surtout de répartir le risque sur plusieurs années.
Mais que pour eux, c'est pas pour les voisins.
Salut Camille, une vidéo BFM, donc on retrouve maintenant Philippe Forbrac, notre meilleur sommelier du monde à nous pour une balade à Bordeaux. Alors, on va où ? On va à Mouly ou à Moulis ?
On va dans l'eau, Médoc. Et on va à Moulis ou à Mouly, en Médoc.
Dans le sud-ouest, on prononce toujours la dernière comme ça.
Ouais, on a tendance à dire, ou entendre Moulis quand même. Mm. Alors, le terme, d'ailleurs, c'est bien d'évoquer la prononciation. Le terme, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient.
Et non.
Moulis.
Et non.
De la pêche au Moulis.
Pas tout à fait. Non. Moulis, ça vient de Moulin. Parce que dans cette appellation, relativement vantée, il y avait pas mal de moulins. Il existe toujours d'ailleurs la Mouline, par exemple. Il y a même un château qui porte le nom de Moulin, puisqu'il y a un château qui s'appelle le Moulin à Vent. Et donc c'est la preuve et la trace.
C'est pas tout à fait dans les mêmes régions.
Ah ben là, on est sur. On parle de Moulis. Hein. Le château Moulin à Vent, c'est à Moulis.
Ah oui, il y a un château Moulin à Vent.
Comme la Mouline. Le château La Mouline, on n'est pas du tout en côté.
Oui, puis Moulin
également, mais c'est la même origine du nom, en tout cas, c'est bien de ces moulins. Alors on est sur une petite appellation qui fait 600 hectares, qui est situé donc à proximité de Margaux, puisqu'on est vraiment à l'ouest de Margaux, coincé d'un côté entre Listrac, un peu plus à l'ouest encore, et Margaux qui est sur le bord de l'estuaire de la Gironde. C'est une appellation qui ne jouxte pas l'estuaire, donc on a dit qu'il n'y a pas cette façade au bord de l'eau, mais qui quand même bénéficie d'un climat, même s'il est un petit peu plus sévère, entre guillemets, parce que c'est pas quand même le pôle Nord là-bas. Hein. On est quand même dans le Bordelais, près du 45e parallèle. Néanmoins, on n'a pas tout à fait le même climat que sur le bord de l'estuaire, qui a un microclimat particulier. Par contre, la géologie est très intéressante. On est sur des graves de type garonnaise et pyrénéenne, donc qui donnent un sol très drainant et qui permet notamment aux cépages de la région, qui sont pour l'essentiel ici le Cabernet Sauvignon, mais également complété par du Cabernet Franc un petit peu, du petit Verdot de temps en temps, et il arrive assez souvent à maturité sur Moulis, mais également au Merlot d'obtenir des vins rouges, puisqu'il y a uniquement des vins rouges sur l'appellation Moulis, qui ont comme intérêt d'être souvent accessibles en prix.
C'est-à-dire
Par rapport à tous les voisins qui sont des appellations comme Margaux, Saint-Julien, Pauillac, ou plus encore dans Saint-Estèphe, on a des vins qui... alors, il n'y a pas de cru classé, mais il y a des crus bourgeois de très belle qualité. Et on a des vins qui, à partir de 10, 12, 15 euros, on a déjà des châteaux qui tiennent bien la route. Et même des fois, moins de 10 euros en primeur, on a des vins qui sont tout à fait...
50% des grands voisins.
Exactement. À qualité égale en tout cas. Donc c'est quand même très intéressant pour le consommateur. On a un style qui est propre à Moulis, je vais revenir dessus, mais on est quand même assez influencé dans l'esprit par les Margaux voisins, et beaucoup d'ailleurs de propriétaires sont un peu à cheval ou ont des propriétés sur les deux. Donc ils travaillent leur Moulis finalement avec la même exigence et dans l'esprit en tout cas d'élaborer des vins qui ont plus de finesse, plus d'élégance, un peu plus de maturité au niveau des cépages que peut-être d'autres appellations du coin. Je pense à l'Istrac, qui est un peu moins bien logé en termes de maturité, notamment à cause de la fraîcheur de la forêt landaise. Du coup, on a des vins rouges assez denses, souvent avec des notes en fonction de la maturité du millésime, des fruits frais ou des fruits un peu plus mûrs, un peu plus confits. Des notes souvent épicées, vanillées, réglisses, etc., qui sont aussi dues, et fumées, torréfiées, qui sont dues aussi à la façon dont on élève les vins, notamment les fûts qu'on utilise, et qui donnent souvent des vins avec une certaine densité, des tanins qui sont relativement veloutés et savoureux par rapport à d'autres vins du Bordelais, et donc qui donnent en plus de beaux potentiels de vieillissement.
Ça, c'est intéressant,
on peut les boire
quelques vignerons peut-être
ou de allez, 5 ans, c'est quand même le minimum. L'idéal, c'est entre 10 et 15 ans sans problème. Alors, j'ai déjà cité certains. Oui. On peut rajouter Duplessis, Mocaillou, Pougeot, par exemple, qui sont un peu les vedettes, mais également Briette et Biston Briette, qui sont deux très bons rapports qualité-prix. Sans oublier le Chasse Spline, qui est quand même un peu la référence de oui, l'appellation. Tout comme le château Malmaison, d'ailleurs, ou le château Pomé, P-O-M-E-Y, qui est vraiment d'un super rapport qualité-prix.
Et vous dites, au niveau de la température de service, pour ces vins, bon, 100% rouge.
Hein. On est autour de 17-18 degrés. C'est super avec des viandes rôties, un agneau confit, un magret de canard, comme on les aime dans le sud-ouest.
La vie,
ça,
quoi.
Ça demande quand même un peu de matière au niveau des plats. Et puis carafer une petite heure avant, c'est juste génial.
Merci beaucoup Philippe Forbach de marquer une pause pour les infos et ensuite on tourne chez Nicolas Paris pour parler du concept Fondovino.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et Frédéric Hermine.
Alors, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. Donc, la semaine dernière, la question était quel est le seul cépage qui produit les vins de l'appellation Condrieu? Donc, réponse A, le Viognier, réponse B, le Chenin, réponse C, le Petit Mansin, et c'était le petit Viognier, c'est ça?
Voilà, le petit Viognier.
Donc
le
la bonne réponse, Sauvignon. C'était la réponse A, le Viognier. Et aujourd'hui, voici une nouvelle question. Donc, dans quelle région Frédéric Bern, le lauréat du concours Vigneron et Terroir d'Avenir, s'est-il installé? Réponse A, le Languedoc. Réponse B, l'Alsace. Réponse C, le Beaujolais. Pour répondre et gagner un exemplaire, donc, du guide des vins du Wine and Business Club, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail invino@vinojeu.com. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Frédéric Hermine. Vino BFM retrouve maintenant Olivier Marié, qui n'est pas là pour parler du tout d'argent, d'épargne, d'assurance. On oublie aujourd'hui, on ne parle que de vin, avec vos découvertes, vos coups de cœur peut-être, mais plutôt dans le sud de la France. Hein.
Oui, dans le sud de la France. Alors, moi, il y a quelques temps, on avait parlé de certains grands vins, notamment le premier, c'est un vin qui s'appelle Les Brunes, qui est la cuvée un peu prestigieuse de ce domaine. Et là, récemment, j'ai bu dans ce domaine un vin qui s'appelle Les Cresses, qui, on va dire, la cuvée un peu plus abordable. Et j'ai trouvé que c'était merveilleux. C'était un très, très beau vin.
Donc, on est dans le Languedoc?
Absolument. Absolument. Appellation vin de Pays d'Oc, d'ailleurs. C'est formidable. Je crois même, d'ailleurs, que certains grands critiques de vin disent que les Brunes seraient le meilleur vin de pays au monde.
Et donc, ça, sur quel millésime vous avez goûté ça?
Alors, 2014 et 2012.
Ça se boit bien maintenant?
Ça se boit très bien maintenant. Alors, les Cresses se boivent plus jeunes que les Brunes. Les Brunes, je pense qu'il faut attendre un peu. Mais les Cresses, oui, 2012, 2014. Alors, il faut carafer un peu avant.
Ah là, il faut carafer,
mais,
hein,
mais, mais c'est joli.
Comment s'appelle le domaine?
Le domaine des Cresses.
J'ai goûté cette cuvée-là et c'est magnifique. Hein.
C'est formidable.
C'est vraiment très, très bon.
Et alors, avec quel cépage?
Alors, on est en Cabernet et en Syrah. Majoritairement Cabernet Sauvignon. Donc ça a ce côté un peu rond, civilisé, comme on dit.
Méditerranée.
Et les deux millésimes 2012-2014 étaient bien, vous dites?
Très bien. Très bien. Et c'est, a priori, je crois que c'est une famille bordelaise
qui est propriétaire
à l'origine.
D'où le Cabernet Sauvignon.
Voilà. Oui, c'est ça. Il vient toujours avec un peu de Berlot.
Oui, le Cabernet Sauvignon est dans la région depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier que le docteur Guyot l'a recommandé au 19e siècle.
Vrai. Exactement. Vrai. Le prix, Olivier? Parce qu'on se méfie, parce que j'ai les gens chaque salle et les boss chaque salle. Il y a beaucoup de sous. Comment ça vaut ça?
On a beaucoup exagéré. Les Cresses, on le trouve à 13 euros.
À 13 euros.
Donc c'est vraiment quelque
super
chose.
Super rapport qualité-prix.
Exactement.
Allez, grand plaisir, quoi.
Grand plaisir.
75 en Magnum?
Non, j'étais en 75.
Allez, deuxième coup de cœur, alors.
Alors, deuxième coup de cœur, là, c'est un vin, en fait, j'en avais parlé déjà, qui s'appelle le Domaine de la Truffière. Et en fait, j'ai goûté d'autres vins et d'autres vins de ce domaine. Ça s'appelle le Domaine du Défend. Donc j'avais bu le Clos de la Truffière. Et là, j'ai bu une cuvée qui s'appelle Marie-Liesse et une autre qui s'appelle le Champ du Bécassier.
C'est joli.
Alors là, on est sur des...
Vous pouvez faire le Champ du Bécassier, faudrait pousser un peu la chansonnette.
Je ne me suis pas entraîné, mais après l'été promis, l'épisode Georges Clooney.
Je reviendrai alors. Et donc là, autant sur la Truffière, on a Cabernet Sauvignon, Syrah. Autant là, on est sur ces cuvées-là, on est Grenache et Syrah.
D'accord.
Donc c'est un petit peu plus petit peu plus tendu, on va dire. Mais c'est aussi très très beau. Et puis c'est une belle histoire de famille, ce domaine. C'est
quel type de plat vous pourriez nous conseiller avec, vous avez pris quoi, vous,
un
agneau.
Un agneau directement, ouais. Quoi.
On est en Luberon, hein.
Oui, c'est très bien, mais c'est
château
parfois...
de la Berry, ça appartient au château de la Berry.
On est Saint-Maximin.
Non, c'est l'autre domaine.
Non, c'est l'autre domaine.
Ah, il y en a deux. D'accord.
La cuvée du Défend.
La cuvée du Défend.
Ça, c'est la Verrerie.
Et là, c'est le domaine du Défend.
Domaine, quoi.
Saint-Maximin.
Oui. Et j'ai bu les deux. Et le domaine du Défend
était presque aussi bon que le premier.
Le domaine du Défend me semblait, oui.
À égalité, quoi. En tout cas, c'est voilà, de très belles maisons. De très belles maisons.
Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant à boire et à des prix raisonnables, puisque Marie-Liesse, c'est une cuvée à 11 euros.
Ah oui, c'est bien ça.
Et donc à Saint-Maximin, on est en Côte-de-Provence, alors là-bas.
Absolument.
Très bien. Et ça, vous avez acheté chez un caviste ou sur place? C'est
au domaine.
Au domaine directement. Quoi.
Il faut aller au domaine.
Ils sont sympas.
Mais ils sont adorables. En plus, ce sont des gens charmants qui ont une passion pour ce qu'ils font. Et ça change tout.
Vous avez un autre coup de cœur pour terminer?
Alors, un troisième, c'est un peu différent, mais c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup le Clos des Fées.
Là, nous sommes où?
Alors, le Clos des Fées.
Roussillon.
On est sur Roussillon.
Chez Marty, hein, quasiment.
Sûr,
hein.
Oui, mais c'est mon job de poser des questions, même pour donner la réponse.
Hein. Chez M. Marty, lui-même.
Et en l'occurrence, chez M. Hervé Bizel.
Absolument, le célèbre. Et là, donc, j'ai bu une cuvée qui s'appelle Les Sorcières du Clos des Fées. Donc, on est sur quelque chose de... Là, aussi, sur des prix un peu plus raisonnables. Parce que le Clos des Fées, il faut quand même débourser un peu d'argent. Donc là, pour 14 euros, on a quelque chose de tout à fait agréable.
Comme cépage, qu'est-ce qu'on a, Olivier?
Syrah, Grenache. D'accord. Et Carignan. Voilà, donc on est dans le domaine, on est vraiment dans le sud, on est dans le Roussillon, dans des choses très...
C'est rond, chaleureux.
C'est rond, chaleureux et fruité.
Et fruité. L'alcool, ça va, il est bien
Il y en a. Il y en a aussi.
Ça se gère.
D'accord, au carafe, on attend un petit
Alors,
peu.
Alors, oui.
Faut vraiment l'attendre un peu, quelques heures peut-être.
Faut carafer.
On remet un peu d'eau et des glaçons, et ça s'arrange.
Non, faut ouvrir. Faut
pédaliser aussi peut-être. Hein. Non, il faut laisser un petit peu de temps. Quoi.
Ouais, il faut laisser un peu de temps.
Vous dites 14 euros. Vous êtes bien aujourd'hui, hein, entre 11 et 14 euros. Là,
mais j'ai dit que on avait parlé des grandes cuvées. Là, maintenant, on parle de vins plus accessibles. Et puis le dernier, c'est le. Là, c'est une découverte. Un vin qui s'appelle. Alors, il a un nom un peu étonnant parce que il s'appelle le Clos de la Bresse.
Le Clos de la Bresse.
Mais il est du côté de Rivesaltes, donc on n'est pas du tout... En ouvrant la bouteille, on se dit, tiens...
Georges de Blanc n'est pas loin.
Non. Et donc là, on est en Grenache et aussi Syrah. Et c'est pareil, c'est un vin qui est tout à fait raisonnable.
Et vous l'avez découvert comment, ce vin, Olivier ?
Eh bien, en fait, c'est une de mes relations qui a racheté ce domaine, qui a commencé à le travailler depuis plusieurs années et qui a vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses dedans, travailler, qui m'a dit... Découvre ce vin, et je l'ai découvert et je me suis fait vraiment plaisir.
Le prix, c'est un Côte du Roussillon
C'est un Côte du Roussillon, je ne sais pas.
En tout cas, il est bon.
Oui, il est bon et il est arrivé aux Alpes. Très bien.
Et le prix, c'est 12,50€, 12,90€.
C'est parfait pour les vacances.
Non, mais là, je sais qu'en ce moment, les budgets sont mis à rude épreuve et donc j'y ai pensé.
Vous connaissez le principe du crowdfunding, Olivier, ou pas?
Oui.
Oui? Vous y croyez?
Oui.
Bon, bah, on en parle avec Thomas Vasque, qui est notre nouvel invité. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors racontez-nous, c'est une histoire sympa, ça, 2014, avec une bande de potes, vous avez lancé une boîte?
Oui, exactement. En fait, Fondovino est né d'un constat, hein, en échangeant avec les Vignerons. C'est un besoin, parfois, pour financer leurs projets, des petits projets. Et ces financements, ils ne les trouvaient pas forcément toujours chez leurs banquiers. Donc, en tant qu'amoureux du vin, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, et notamment en observant ce qui se passe ailleurs dans d'autres secteurs d'activité autour du crowdfunding ou financement participatif.
Donc là, vous financez, vous donnez, vous prenez du capital, vous faites plein de choses, en fait.
Alors... Déjà, la première étape, c'était de se constituer une communauté d'amoureux du vin, en fait. Hein, ce que nous appelons les fondovineurs. Hein. Ils sont aujourd'hui un peu plus de 2000. Et pour quelques euros, hein, une dizaine, parfois une centaine, tout dépend de ce qu'ils sont prêts à donner, puisqu'on est sur du don.
On est sur du don, d'accord.
Du don, hein, uniquement. On ne revendique pas de propriété à l'issue, hormis le contre-don que propose, en fait, hein, le vignon, si c'est un vignon. Je précise qu'il n'y a pas que des vignons, il y a aussi des cavistes, des négociants.
C'est l'univers au sens large,
hein, du vin. Hein. Et donc, ça peut être, par exemple, je donne 30 euros, je vais avoir, selon le domaine, une ou deux bouteilles, et je donne 150, une nuit au château, une soirée dégustation, enfin, c'est...
Une carte postale de Frédéric Hermine,
enfin, et ça, on l'imagine, on le pense avec le porteur de projet, qu'il soit Bigon ou autre.
Alors, 2014-2016, à date, combien de projets financés, on va dire?
Alors aujourd'hui, on arrive à 20 projets financés.
C'est pas mal, hein.
C'est ce qui représente 200 000 euros en fait de financement. Donc ça a été très bien accueilli par la profession. On a eu pas mal de papiers.
Quoi par exemple? Quels projets ont été financés? Un ou deux exemples?
Par exemple Pierre Gallet, hein, qui a créé le premier dictionnaire encyclopédique des cépages, hein, 6600 cépages référencés, et ce qui aujourd'hui, l'encyclopédie de référence en la matière. Ça c'est un exemple. On a aussi je sais pas si, enfin, vous connaissez vous, mais peut-être pas tout le monde, la flavescence dorée, hein, qui est un énorme problème pour certaines cultures.
Qu'est-ce que c'est, ça, Philippe?
C'est
un
parasite qui tue la vigne. Malheureusement, il n'y a pas de traitement qui existe aujourd'hui, si ce n'est d'arracher et de brûler. Parce qu'il faut faire disparaître absolument la souche.
Et ça, c'est plutôt partout en France, c'est dans le sud, c'est...
Il y en a partout en France, et surtout pas qu'en France.
Et c'est
beaucoup dans le Languedoc. Il y en a partout en France, mais assez représenté dans le Languedoc.
Ça, vous financez un projet de recherche là-dessus?
Exactement, donc avec un laboratoire spécialisé pour un test qui en 20 minutes vous permet de diagnostiquer, en fait,
oui ou non,
si vous en avez ou pas.
Alors, votre business model, c'est quoi? C'est super d'aider les gens, mais il faut bien gagner un petit peu de sous.
Bah, notre business model, il est assez simple en fait. Hein. Alors, donc le don contre don d'abord, puisque après je pourrais vous parler de la deuxième étape, hein, qu'on est en train de préparer et de lancer bientôt à la rentrée. C'est donc sur le don contre don, on prend un pourcentage en fait du montant du projet.
D'accord.
Montant global quand il arrive à...
C'est combien le pourcentage?
On parle de 8%.
D'accord. Donc là, sur 200 000 euros, vous avez fait un peu moins de 20 000 euros. Quoi.
Exactement.
D'accord. Ouais. Et là, vous avez combien de personnes dans le capital de votre entreprise? Vous êtes seul? Vous êtes toujours avec vos quatre copains? Enfin, vos trois copains?
Oui, c'est ça. On est avec des amis. Et puis, on a des amis. Et puis, on a ce qu'on appelle la love money, des amoureux du vin qui ont dit, je donne un peu d'argent pour pouvoir...
Et la prochaine étape, c'est prendre un peu de participation au capital?
Et oui, alors c'est de lever des fonds. Donc ouais. Aujourd'hui, on a été pris sur la coupe d'un gros cabinet spécialisé pour justement passer à de l'equity. Donc là, on revendique une propriété et on est sur des montants qui sont beaucoup plus significatifs, hein, puisque derrière, il y a un investissement. Donc on a déjà des projets, par exemple un projet en Champagne, pour un hectare de Champagne.
Racheter
un hectare de Champagne.
Vous êtes combien? C'est entre quoi? 1 million 4, c'est ça. Bon, on réagit par rapport au projet de Thomas, Olivier?
Il faut qu'on se revoie vite. Parce que moi, j'ai beaucoup de nos clients qui vont être intéressés par ce genre de...
Bien sûr, chaque ça, effectivement. Chaque ça, bien sûr, dans le groupe.
En plus, chaque ça, on est passionné par le vin. Donc,
vous faites Camille, que vous y croyez ou pas au projet de Thomas?
Alors, oui, moi j'y crois, mais je voudrais juste savoir comment vous sélectionnez les projets, en fait.
Alors, comment on les sélectionne? C'est on n'a pas de critères sur le don contre don, hein, parce que sur la partie equity, c'est différent. Mais sur le don contre don, il faut qu'il y ait une histoire à raconter, qu'elle soit belle. Si c'est juste dire je veux me faire financer un foudre ou une cuve, ça fait pas forcément toujours rêver. Par contre, Pierre Gallet, effectivement, c'est un ouvrage de référence. On a, par exemple, un projet qui nous a séduit aussi à Châteauneuf-du-Pape, parce que c'était dans des cuves ovoïdales, la création d'une première cuvée qui s'appelle Abbé Mousse Papam. C'était pas déposé. Bon, voilà, il faut une histoire à raconter.
Bon, merci Thomas. Est-ce que vous avez un site internet pour prendre enseignement?
Oui, site Fondovino.
Comment s'écrit Fondovino?
Alors oui, Fondovino.
Merci beaucoup Thomas Havas. On marque une dernière pause, ensuite on retourne chez Nicolas à Paris pour parler de Sauternes et de Loupiac notamment.
BFM Business, Weekend. Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin restaurant Nicolas à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec une nouvelle invitée, Sophie Perroma, copropriétaire des châteaux Prost et Vieux Moulin. Bonjour Sophie.
Bonjour.
C'est une famille, hein, d'accord quoi.
Une famille, oui.
Bon, alors vous avez commencé par être prof d'anglais avant d'atterrir dans le vin.
Oui.
C'est super prof d'anglais, pourquoi est-ce que vous avez changé de métier?
Oui, c'est très bien, mais je me suis rendu compte au bout de quelques années que j'aimais beaucoup l'anglais, les langues, mais que l'enseignement, je m'ennuyais un peu.
Un petit peu, quoi. Ouais. Est-ce que vous pourriez faire passer un test de français à David Cobold, mais en anglais? Parce qu'il a vécu plus longtemps en France qu'en Angleterre, et on se demande s'il n'a pas un peu oublié son anglais quand même. Hein.
Je ne sais pas, pour vous, coach.
I'm listening.
Voilà.
Posez-lui une question, ce que vous voulez.
A difficult French word that you wouldn't know.
I find it very hard to pronounce Puy-Fussé.
Bon, alors Sophie, racontez-nous. Donc, ces copropriétés, et ce sont vos familles qui sont arrivées au 10e siècle à Bordeaux, c'est ça?
Oui. Ils étaient déjà là, la famille était là depuis le 16e siècle, donc 4 siècles, implantés. Ils n'ont pas beaucoup voyagé. D'ailleurs, je suis la seule immigrée à Paris parce que tout le monde est resté dans le sud-ouest.
Alors, il fait bon vivre aussi, hein.
C'est agréable. Oui, je reviens de.
Bon, alors, ces châteaux, vous êtes en appellation Loupiac et Sauternes, c'est ça?
Oui, Loupiac et Sauternes. Le château Vieux Moulin, en fait, c'est le château le plus ancien. Vous l'avez de la famille Cazot dans les années, donc dans le 16e, 17e, 18e, etc. Et mon grand-père a repris la propriété, était médecin généraliste de campagne. Il a repris la propriété avec son épouse, qui était donc Marguerite Cazot, donc de la famille Cazot. Et ils ont bien développé, parce qu'en même temps que ses visites, ils s'occupaient du chai. Et sa femme était très active d'ailleurs, dans ma grand-mère, pour aller dans les vignes et dans les chais. Et ensuite, donc après son décès en 77, mon père et mon frère ont repris l'exploitation.
D'accord.
Ils étaient à Séronce, où ils faisaient du grave et du Séronce. Le Séronce a été repris par mon frère Xavier en 2012. Et mon père a continué avec un de mes neveux à exploiter le château du Vieux Moulin et le château pro.
Au total, donc, combien d'hectares vous avez?
Alors, 6 hectares en pro et 8 hectares en Vieux Moulin.
D'accord. Et les cépages, qu'est-ce qu'on a comme cépages?
Sémillon, 70%, 25%, 20% Sauvignon, ou 25% Sauvignon et 5% Muscadelle.
On fait beaucoup de vin rouge en Loupiac, Sauternes?
Pas du tout. Peut-être il y avait un petit vin rouge à l'époque, mais...
Ouais. Donc, préciser. Alors, expliquez-nous un peu les difficultés.
Mais on fait
un vin rouge.
Alors, en grave, oui, bien sûr.
Rouge en grave.
Du grave, mais il y a quand même un vin qu'on continue à faire de 3 hectares dans les palus, près de...
Ah oui,
le petit vin de garage entre amis, quoi, c'est ça?
Voilà.
Bon, alors, racontez-nous, le Sauternes, Loupiac, c'est super beau, mais personne n'achète. Pourquoi?
Oui, ben c'est la question qu'on se pose. Parce que chaque fois que
c'est excellent,
fait,
hein. C'est formidable.
C'est merveilleux. Oui. Ce sont des vins de miracle.
Pourquoi
miracle de la nature.
On ne sait pas avec quoi les boire, comme souligne Olivier.
Oui,
c'est quoi la problématique?
Je pense que les gens ne savent pas trop comment les boire, parce que quand ils les goûtent, ils les trouvent délicieux, pas lourds. Tout le monde a su.
Alors, on réagit parce qu'il faut aider le soldat Sauternes. Frédéric Arbis, vous en pensez quoi?
Moi, je milite depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on a trop longtemps associé le Sauternes avec le foie gras. Donc, bilan des courses, on n'en boit qu'en fin d'année. Et c'est ça qui est dommage, parce que quand on goûte, j'ai fait une dégustation récemment de Reine Vigneault avec tout un assortiment de fromages, c'est magnifique. Et puis même, j'en avais parlé l'année dernière, mais il faut aussi apprendre aux jeunes à déguster des Sauternes, mais très jeunes, avec des jeunes vignes, y compris en cocktail, parce que c'est comme ça qu'ils évolueront.
Olivier Marie, en tant qu'amateur de vin, vous, dans votre cas, vous avez les Sauternes? Dans le groupe AXA, il y a quelques Sauternes.
Oui. Sauternes, parce que d'abord, mon épouse adore le Sauternes.
On la salue d'ailleurs.
Et je l'embrasse. Oui. Et ensuite, bon, effectivement, on a Château Sudiro qui est un très beau Sauternes. Et moi, j'adore le Sauternes, notamment avec des repas épicés. C'est-à-dire que je bois le Sauternes avec de l'indien, avec du chinois relevé. Et je trouve que c'est merveilleux.
C'est un mariage merveilleux. Parce que c'est pas facile, hein, Philippe, on parle de marier avec des plats un peu épicés.
C'est pas facile de trouver le vin qui convient. Le Sauternes convient bien. Moi, j'explique aussi le fait de la baisse de consommation du Sauternes, ou des vins moelleux et liquorants en général, au fait que souvent, avant, on les servait à l'apéritif. Donc on débutait avec ça, on aimait bien ça, c'était
ça fatigue un peu le palais, il faut reconnaître.
Oui, mais on commençait avec ça, sauf qu'aujourd'hui on attend soit le mettre avec le foie gras, soit le proposer avec le dessert. Le foie gras, on n'en mange pas toute l'année.
C'est lourd.
Et le dessert, on en fin de repas, et finalement on ne boit plus de vin de dessert, c'est plus rare qu'avant. Du coup, automatiquement,
la consommation baisse.
Moi, j'ai une autre théorie qui est certainement pas conflictuelle avec celle que vous venez d'exposer. Et à mon avis, les deux se cumulent. C'est qu'il y a un mode anti-sucre. Et c'est un énorme paradoxe, parce qu'en même temps, on n'a jamais mangé aussi sucré. On voit le type de nourriture que beaucoup de jeunes mangent, c'est hyper sucré. Et en même temps, on rejette les boissons sucrées. C'est quand même un paradoxe
pas
énorme.
Pas toutes les boissons sucrées. Bientôt, le Sauternes light, bientôt.
Eh bien, pourquoi pas.
D'ailleurs, chaque fois que encore
avec des bulles.
Cette fois-ci, à la journée Nicolas, enfin pour les cavistes,
bien sûr.
J'ai une liste de tout ce qu'on peut boire avec le Sauternes et tout le monde est très preneur. Mais c'est vrai. Ah ben oui, on n'avait pas l'idée.
Et vos Sauternes, Sylvie, c'est dans quel gamme de prix? Combien ça coûte au prix final TTC consommateur chez Nicolas, par exemple?
Chez Nicolas, 22,90 pour le Sauternes.
22,90 pour le boulot que ça représente.
Et 20 euros pour le Vieux Moulin, Château du Vieux Moulin.
Et ça peut se garder, la question si bête, quand on ouvre une bouteille de Sauternes, est-ce qu'on peut la boire avec sa belle-mère dimanche suivant?
Il
faut changer de belle-mère.
Oui. Vous pouvez la garder au frais pendant une semaine.
La belle-mère.
Et vous conservez la belle-mère.
Oui, les deux, c'est bien.
Ça conserve.
Bon, si on vient dans la région, est-ce qu'on peut venir vous embrasser? Vous êtes ouvert?
Oui. Par contre, mon père ayant 92 ans et 93.
Vous sonnez très fort.
Non. Mais il accueillera. Il vous accueillera, mais il faudra quand même l'avertir à l'avance.
On lui dira qu'on connaît Sylvie?
Plutôt le soir ou le matin. Il fait
plutôt le soir ou le matin. Il fait des longues siestes alors.
Mais vous serez bien accueillis dans la maison qui ne sera pas le pro, parce que ça c'est chez mon frère qui est médecin. Et Vieux Moulin.
C'est la tradition familiale.
Ouais, ça reste dans
les histoires. Oui, voilà. La moitié.
Vous avez une adresse internet, un site peut-être pour prendre seulement sur l'un ou l'autre ou deux.
Une adresse internet, oui.
Oui, ou la vôtre. Non, je plaisante. Non, c'est...
Bah oui, si, oui. Si vous voulez des informations. Oui. Sophie.peroma.
D'accord.
Wanadou.fr. Je vous donne quand même l'adresse internet du bureau. Jean Peroma. À châteaudumaine.fr.
Bon, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, voilà. Sylvie, en tout cas. Vous êtes sympa, ne changez rien. David Cabol, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, qu'est-ce qu'il en pense? Il va s'exigéner un peu du côté des pays de l'Est, là, ou pas?
Alors, Alain Marty, si je vous dis Blaufränkisch, Lemberger, Kekfrankosch.
Je dis que vous êtes redevenu anglais.
Attends, j'ai pas fini. Frankowka, Modra Frankinia, Frankowka Modra ou encore Bourgogne.
Ben nous partons avec Sylvie Sauternes tout de suite.
Je parle de quoi?
On dit qu'il faut arrêter la vodka.
L'Est de l'Europe.
Champignons.
Très bien, Olivier. Mais encore.
Aussi de cépage.
C'est le même cépage. Oh, ce sont des synonymes pour un cépage qui, dont le nom dominant, parce que c'est là où il y a le nom le plus, est le Blaufränkisch. C'est un cépage donc qu'on trouve dans l'Est d'Europe, en Allemagne. On trouve les premières mentions en 1862. Dans un congrès à Vienne, un congrès de cépages que l'Empire austro-hongrois avait organisé, tous les cépages de l'Empire. Mais c'est certainement un cépage beaucoup plus ancien, parce que vous avez noté peut-être que j'ai prononcé le mot Bourgogne. Alors Bourgogne, c'est en croate, c'est là où on l'appelle en Istrie, le Bourgogne.
Ça devient compliqué votre histoire là.
Ben oui, mais vous allez voir que c'est l'histoire des liens empélographiques est fascinante. Or que ce n'est ni le Pinot Noir ni le Gamay qui sont les deux cépages.
Alors, vous
le
savez très bien.
Mais en revanche, le Blaufränkisch, c'est un des parents du Gamay. Là, par l'ADN, on a maintenant découvert. Et c'est lié à la famille des Pinots par le cépage qu'on a appelé la Casanova des Vignes, notre célèbre Gouet Blanc.
C'est pas grave.
Qui a eu tellement d'enfants.
Alors, c'est qu'on peut
relire l'encyclopédie de Pierre Gallet dont on a parlé tout à l'heure. Il y a toutes les informations dessus.
Alors, à mon avis, chez Pierre Gallet, moi je le prends dans un autre document de référence qui est le livre de Jancis Robinson, de Julia Harding et de notre ami Villamos, le Suisse, qui est un livre aussi magnifique et très pratique. Alors, ce cépage est le deuxième plus planté en Autriche aujourd'hui. Après, je vais encore vous énerver, le Zweigelt, qui est un enfant du Blaufränkisch.
Je reconnecte, là, ça y est.
Alors, je vous passe les autres noms, le Kekfrankos, c'est la même chose en anglais, ils vont tout ça. Alors, on le trouve assez rarement en dehors de cette région de l'Est de l'Europe. On le trouve donc en Croatie, je l'ai dit, en Slovénie, en Tchéquie, en Slovaquie, en Hongrie, et en Autriche et en Allemagne. Mais un tout petit peu aux États-Unis et en Australie, et même un poil au Japon. Un Japon.
Comme un Blaufränkisch au Japon.
Oui, il y en a.
Alors,
j'ai assisté récemment dans le magnifique salon Vivienum, qui est le grand salon des vins autrichiens qui a lieu tous les deux ans à Vienne, dans le grand palais des Habsbourg, enfin quelques salles du palais des Habsbourg, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et j'ai pu assister à une dégustation où il y avait 62 producteurs de Blaufränkisch de presque tous les pays que j'ai mentionnés. La dominante étant forcément autrichienne, mais pas uniquement. Et j'essaie de goûter un peu partout pour avoir une notion de la variété. Variation et interprétation, c'était d'ailleurs le assez joli titre, parce que un cépage dans différentes régions ne donne pas nécessairement les mêmes résultats, et avec différents vinificateurs non plus. La grande concentration de Blaufränkisch se trouve à l'est de l'Autriche, dans la grande zone qu'on appelle le Burgenland, autour du Grand Lac, le Neisseider, qui fait frontière avec la Hongrie. D'ailleurs, beaucoup de domaines vinifiés maintenant dans les deux, notamment le domaine des je ne sais plus comment il s'appelle, hein, grande famille
autrichienne. Très, très grand domaine, d'ailleurs.
je vais revenir là-dessus. Alors, maintenant, ce qui intéresse l'auditeur, c'est certainement à quoi ça ressemble. C'est un cépage qui est plus tannique que le Pinot Noir, beaucoup plus tannique donc que le Gamay, qui a beaucoup de fraîcheur, qui a un fruité très élégant, et que je qualifierais, ça se situe entre une Syrah et un Pinot, si on veut simplifier. J'aime pas beaucoup ce genre de comparaison, mais on peut imaginer avec une touche de Nebbiolo pour les versions les plus tanniques. Donc c'est un cépage qui peut être très fruité, très suave s'il y a un élevage un peu long, beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur, parce que la plaine de la Pannonie autour du Burgenland, c'est très, très 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 chaud en été, très froid en hiver, mais très chaud en été. Et selon le degré, selon la parcelle, selon le degré d'extraction, on a des choses très différentes. Maintenant, je vais vous parler des vins que j'ai aimés. Ces vins sont parfois un peu austères, hein, quand ils sont jeunes. Ils ont une certaine tannicité et beaucoup de fraîcheur. Et le tannin est durci par l'acidité, comme on le sait bien. Avec les Cabernet Sauvignon, il faut leur laisser un peu de temps parce qu'ils ont acidité et tannin. C'est pareil pour le Blaufränkisch. J'ai goûté un très joli vin de la Roumanie qui s'appelle Nashville. Et quelques noms en Hongrie, parce qu'on le trouve, pardon, en Autriche, qu'on le trouve en France. Nittnaus, Preiler, Tribaumer, Paul Axe, Riedmüller et Markus Altenberger. C'était mes coups de cœur. Plus Werchter, Wiesler.
N'allez pas l'oublier, Zergut.
Alors, il y a des germanistes quand même dans le
panel. Merci.
Et tout ça s'écrit comment?
Merci beaucoup, David Cobold. Merci à tous. Fin de ce numéro 604 d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve en public et délocalisé au bar à vin restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, samedi à 13h et dimanche à 16h. D'ici là, restez fidèles à BFM Business pour y réécouter cette émission, bien sûr, notamment pour les conseils de David Cobold. Et surtout, respectez la plus grande des modérations.